Nous sommes entrés dans un état de crise écologique durable et planétaire. Hervé Kampff, extrait de Comment les riches détruisent la planète. Le mode de production capitaliste et le modèle de société qui en découle est la cause directe de la crise écologique majeure à laquelle nous sommes confrontés depuis 3 ou 4 générations. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous nous heurtons aux limites de la biosphère et nous subissons les conséquences de plus en plus directes du saccage systématique des sols, de l'air, de l'eau et de toutes les espèces vivantes. Le milieu naturel a atteint le maximum de corruption compatible avec la survie des humains et, développement durable oblige, nous allons droit dans le mur. L'homme a perdu l'aptitude à prévoir et à prévenir, il finira par détruire la Terre, Albert Schweitzer. Nous en sommes donc arrivés à un niveau de pollution globale et sans retour en arrière possible. Caractérisé par des changements climatiques irréversibles dus au réchauffement de l'atmosphère lié à l'activité humaine, à une érosion de la biodiversité telle que l'on peut parler de 6e crise d'extinction pour désigner la disparition accélérée d'espèces à notre époque. La 5e crise d'extinction, il y a 65 millions d'années, avait vu la disparition des dinosaures. Enfin, nous sommes arrivés à un stade de contamination chimique généralisée de notre environnement, et ce en moins de 60 ans. Du Xanax dans les rivières, jusqu'aux cadavres qui se décomposent moins vite à cause des conservateurs que l'on ingurgite tout au long de nos vies de consommateurs via l'alimentation moderne. Déjà 50 ans que tout ça, nous le savons, et qu'en dehors des théories fumeuses servant la bonne conscience politique et le marketing, à coup de développement durable et de culpabilisation individuelle, rien ne se passe et tout s'accélère. Et comme dans notre émission, la lutte, c'est classe, on va parler de tout ça de manière pessimiste et sexy. Voici l'abécédaire de la DER des DER. K comme Koala et Kew Gardens, ou comment l'essor du capitalisme a accéléré la destruction massive des espèces et des espaces. Si les premiers colons européens considéraient les koalas comme une curiosité du continent australien, à partir de 1788, ils prennent connaissance de la facilité avec laquelle les aborigènes attrapent les koalas, car ils font naturellement confiance à l'homme. Des centaines de milliers de bêtes vont alors être tuées pour fournir la demande de fourrure de koala, un article recherché sur le marché mondial, en Europe et aux États-Unis principalement, mais aussi en Australie où l'on en confectionnait des couvertures de voitures très en vogue. Il fallait tout de même 15 koalas pour une couverture. Entre 1907 et 1927, 6 saisons de chasse aux koalas ont été décrétées par le gouvernement australien. Des massacres d'envergure ont eu lieu au Queensland en 1915, 1917 et surtout en 1919, quand le gouvernement décide l'ouverture d'une saison de chasse de 6 mois pour les koalas et les dendrolagues, pendant laquelle 1 million de koalas sont massacrés. Cette exécution de masse entraîne cependant des protestations publiques et la même année une interdiction de leur chasse. Mais le koala continue d'être chassé en toute illégalité. En 1924, ils disparaissent d'Australie méridionale et sont décimés en Nouvelle-Galles du Sud. Leur population tombe à 500 au Victoria. Cette même année, 2 millions de fourrures sont exportées de ces états. En août 1927, le gouvernement en mal d'électeurs, alors que la sécheresse de 1926-28 engendrait une vague de pauvreté, rouvre officiellement la chasse au koala. 600 000 à 800 000 koalas sont massacrés en un mois de chasse, ce qui provoque un soulèvement colossal de l'opinion publique. Cela a certainement été le premier problème environnemental à grande échelle qui ait rassemblé les Australiens. Cette volonté désormais affichée de protéger le koala ouvre la voie à la mise en place de mesures de protection à la fin des années 1930. Mais à cette époque, près de 80% de leurs espaces vitaux antérieurs sont déjà détruits. En 1937, le koala est déclaré espèce protégée dans toute l'Australie. Si l'exemple du koala, en fin de compte, peut paraître heureux, il fait figure d'exception parmi tant d'autres espèces et bien souvent leur extermination va de pair avec le capitalisme grandissant. La pêche commerciale de la baleine est l'un des pires exemples de surexploitation de la vie sauvage du début du capitalisme, comparable à la quasi-extermination du bison américain et au massacre des animaux à fourrure. Certaines espèces ont depuis totalement disparu. Mais pourquoi s'emmerder à chasser des poissons aussi gros ? Outre sa mégalomanie qui pousse l'humain à détruire systématiquement les espèces plus grosses que lui, la baleine a été pendant tout le début du 19e siècle une matière première appréciée. Elles sont chassées pour leur viande et pour leur huile, le spermaceti, une substance liquide cireuse que l'on trouve dans la tête du mammifère, qui servait à fabriquer des chandelles sans fumée et du lubrifiant pour machines. Et des cétacés possédant des fanons, on pouvait se servir des dix fanons comme « baleine » entre guillemets pour les corsets. Eh, c'est ça le progrès. Si on retrouve des traces de pêche baleinière de subsistance jusqu'à 3000 avant notre ère, l'espèce va rapidement décliner avec le développement de la chasse industrielle, qui va atteindre son apogée dans la seconde moitié du 19e siècle. L'invention du canon à harpon explosif et la construction d'énormes navires-usines à vapeur vont permettre une extermination massive et systématique. Jusqu'en 1860 tout du moins, car les prises vont décliner alors brutalement à cause de la surpêche et l'industrie baleinière va décliner de même peu à peu avec l'introduction des huiles végétales, des corsets à baleines métalliques et des lampes à gaz. Mais le massacre ne va pas s'arrêter là et continue encore aujourd'hui. Il reste environ 300 baleines franches dans l'Antarctique Nord et 250 dans le Pacifique Sud et l'espèce ne montre pas de signe de rétablissement. Un autre exemple pour vous montrer à quel point certaines espèces ont été massacrées pour des raisons ridicules. Au cours du XVIIe siècle, une des proies les plus recherchées en Amérique du Nord par les colons est le castor, le plus grand rongeur du continent. Autrefois très abondant, il a commencé à se raréfier dès les années 1630, quand le roi Charles Ier d'Angleterre décrète obligatoire l'usage du castor dans la fabrication des chapeaux que portent tous les membres de la haute société. Vers 1720, plus de 2 millions de castors ont été tués dans l'est de l'Amérique du Nord. Les chapeaux en castor restent à la mode jusqu'au début du 19e siècle, lorsque ces animaux sont pratiquement exterminés à l'est du Mississippi. L'énorme demande pour ces coiffures au 18e siècle et au début du 19e siècle provoqua le boom du commerce des fourrures destinées à l'exportation vers l'Europe, dont feront les frais des centaines de milliers de belettes, de loutres, de visons, de martres, de gloutons, qui auront aussi à souffrir en plus de la réduction de leur milieu forestier. Et quand ces espèces furent disséminées, la chasse massive aux phoques a commencé. Si ces exemples parlent de destruction d'espèces massives, il y a quelques siècles de cela, les surexploitations commerciales modernes détruisent les espèces à un rythme et avec une ampleur sans précédent, tout en détruisant des milieux et des écosystèmes entiers. Des scientifiques ont proposé de faire débuter au 19e siècle, avec l'industrialisation, une nouvelle ère à l'échelle des temps géologiques, l'Anthropocène, pour mettre en lumière le fait que l'espèce humaine est devenue l'une des principales forces évolutives de la planète et que son action sur l'écosystème, façonnée par le mode de production capitaliste, a aujourd'hui des conséquences majeures, irréversibles. Si l'extinction de masse des animaux a pris un tour aussi tragique, avec les conquêtes impérialistes d'abord, puis avec la mondialisation, il en va de même avec le règne végétal. Considérés comme des marchandises et des espaces exploitables à merci, comme des espèces et des espaces sauvages à dompter et à maîtriser. Cette vision mercantile va tellement loin qu'aujourd'hui, l'une des approches pour faire prendre conscience au gouvernement, lobbyistes et autres industriels de l'importance de préserver la biodiversité est de donner une valeur à l'écosystème planétaire. Ainsi, de savants calculs ont permis d'évaluer la valeur des services rendus par l'écosystème mondial et des stocks de capitaux naturels entre 16 et 54 billions de dollars par an. La fin du capitalisme, c'est par où déjà ? Thank you. cas comme The Kew Garden et les jardins botaniques coloniaux. Les jardins botaniques royaux de Kew, au sud-ouest de Londres, abritent aujourd'hui l'une des plus importantes collections de plantes du monde, plus de 30 000 espèces de végétaux et un centre de recherche en botanique réputé. Cette abondance, qui se veut exhaustive, ne date pas d'hier. C'était déjà le QG de Darwin à l'époque. On y trouve le plus grand herbier du monde depuis les années 1860, soit plus de 7 millions de spécimens qui y sont répertoriés. Fondée en 1759, c'est une institution emblématique de l'époque victorienne avec sa vaste serre typique appelée Palm House, première construction d'envergure utilisant le fer forgé. Les collections de plantes atteignirent rapidement une dimension impressionnante grâce au réseau de jardins et de collaborateurs dont l'institution disposait à travers tout l'Empire et permirent aux jardins botaniques royaux de Kew d'incarner par la magnificence de ses possessions la mainmise britannique sur le globe. Le jardin botanique de Kew était au centre d'un réseau de près de 80 jardins botaniques coloniaux dans l'Empire britannique. Cette utilisation des potentialités de l'Empire pour enrichir les collections du jardin de Kew n'est d'ailleurs pas à sens unique. La connaissance pointue que son personnel possédait des caractéristiques des différentes plantes collectées à travers tout l'Empire permit plusieurs acclimatations promises à un grand avenir. Implantation du caoutchouc en Malaisie, de la quinquina d'Amérique latine en Inde ou du café au Sri Lanka. Alors que la consommation de produits tropicaux ne cesse d'augmenter dans les sociétés industrielles, c'est l'espace tropical dans son ensemble qui est transformé en centre de production. Avec l'expansion du capitalisme, l'acclimatation des végétaux pour les plantations concerne toute la planète. À la fin du siècle dernier, l'effervescence expansionniste européenne bat son plein en Afrique et en Asie. Très vite, les territoires colonisés voient s'implanter ces premiers établissements scientifiques que constituent les jardins botaniques. Dans les années 1890-1900, se créent ainsi plusieurs dizaines d'établissements dans les possessions britanniques, allemandes et néerlandaises. Vers 1900, chaque territoire du nouvel empire français est doté de jardins d'essai, constituant un vaste réseau en relation avec le jardin des plantes à Paris. D'après l'historien des sciences Christophe Bonneuil, l'exploration botanique est même un des mobiles de l'entreprise coloniale et devient rapidement un enjeu crucial dans la lutte économique que se livrent les puissances impériales européennes. Le transfert des plantes utiles à travers le monde détermine une géopolitique des jardins botaniques d'acclimatation en vue d'une exploitation commerciale. Mais les services rendus à l'entreprise coloniale par la botanique ne se limitent pas à l'inventaire des produits susceptibles de devenir objets d'exploitation ou de commerce. Les puissances qui disposent de colonies s'efforcent de transférer dans leur espace économique des produits achetés à l'extérieur. Pour mener à bien ces transferts et ces introductions devenues décisifs, on fait appel à des botanistes et l'on établit des jardins dans les comptoirs et les colonies. Comme celui de Buitenzorg, installé à Java en 1817 par les Néerlandais, qui devint à la fin du 19e siècle un centre majeur de botanique et d'écologie tropicale qui coordonne un ensemble de stations de recherche agricole spécialisées dans les principales cultures coloniales et financées par les organisations de planteurs, qui participent à la définition des priorités de recherche. Au total, vers 1900, près de 200 jardins botaniques et plusieurs centaines de botanistes assurent dans les empires européens coloniaux l'inventaire, l'étude, la mise en circulation et l'amélioration agronomique des principales ressources végétales planétaires. Dans son article « Le lieu où s'inventent les tropiques » paru sur le site La Recherche, Christophe Bonneuil rapporte plus précisément comment la création de jardins botaniques sous les tropiques a suivi de près la conquête de nouveaux territoires coloniaux. Il nous dit « Bien sûr, d'importants enjeux économiques et géopolitiques ont sous-tendu la création de tels établissements. On sait qu'avec celle des métaux précieux, la quête de produits végétaux, épices, drogues, soieries, plantes tinctoriales, fut un mobile essentiel de la conquête du monde par les Européens à partir de la deuxième moitié du XVe siècle. » C'est pour s'assurer le monopole du commerce du poivre et des épices que les Portugais s'implantent en Asie, par exemple, avant que ne s'impose au XVIIe siècle la domination hollandaise. C'est la même quête qui va pousser Christophe Colomb à chercher une route par l'Atlantique et lui fait voir dans l'île de Cuba qu'il vient de découvrir des épices et du coton, du mastic, de la rhubarbe et de la cannelle. Dès les XVIIe et XVIIIe siècles, à l'âge des mercantilismes, dérober des graines sur le territoire d'un État rival, les transporter et les acclimater dans un jardin botanique afin d'en développer la culture dans une colonie représentait souvent une affaire d'État. L'introduction du caféier à la Martinique en 1720, puis des épices par Pierre Poivre au jardin des Pamplemousses à l'île Maurice, sont autant d'épisodes de la partie d'échecs botaniques planétaires que se sont livrées les grandes puissances du moment. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, tandis que la consommation de produits tropicaux ne cesse d'augmenter, la marine à vapeur, la caisse Ward et la nouvelle poussée coloniale étendent considérablement le réseau et l'activité des jardins botaniques. Inventée en 1830, la caisse Ward permet une bonne conservation des plantes vivantes durant leur transport. Grâce à cette innovation, le jardin botanique de Kew, près de Londres, peut expédier dans les colonies britanniques 6 fois plus de plantes entre 1832 et 1847 qu'au cours des 100 années précédentes. C'est dans ces caisses Ward que le théier est introduit de Chine en Inde en 1848, faisant les beaux jours des plantations et du 5 o'clock tea. De même, l'EVA, importée en 1876 via Kew, d'Amérique du Sud vers l'Asie, permet à 3 décennies plus tard aux plantations d'Asie du Sud-Est de supplanter la production des forêts brésiliennes, tandis que la culture du caféier et du cacaoyer gagnera l'Afrique de l'Ouest. Cette mise en mouvement des plantes à travers un réseau de jardins bouleversa profondément la carte agricole et botanique de l'espace intertropical. Par exemple, moins de 60 plantes sur les 300 cultivées au jardin d'essai français de Camayenne, en Guinée, sont des plantes locales. Le jardin se veut en effet l'avant-poste d'une colonisation végétale de la terre africaine et de la réorganisation de son agriculture. Au tournant du siècle, dans les empires européens, les jardins botaniques et les plus modestes jardins d'essai emploient sous les tropiques plusieurs centaines de botanistes formés en métropole. Certains sont équipés de laboratoires, bibliothèques et herbiers. Dans l'imaginaire colonial, la nature tropicale est rétive à l'investigation. Explorer, coloniser, c'est dévoiler ce qui est obscur et fermé. La nature, admirable et féconde, dérobe si bien ses merveilles qu'elle semble se taire à dessein, affirme un médecin en poste à Libreville. Les voyages d'exploration sont des guerres livrées à la nature pour lui arracher ses secrets, renchérit un explorateur de l'Amazonie. Le jardin d'essai est aussi indispensable à ces micro-sociétés blanches pour aménager la ville colonisée en un lieu de séjour vivable, répondant à sa conception de l'urbanité, de la civilisation et de la tropicalité. C'est là que les plantes et les colons s'acclimatent. Le jardin, c'est le lieu arraché à la sauvagerie ambiante. L'Européen dépaysé se rattache avec une sorte de culte à son passé récent. Il garde fidèlement ses coutumes civilisées au milieu de la sauvagerie, écrit alors le docteur Barrett. Cacaoyers, plantes à caoutchouc et autres plantes d'intérêt économique côtoient une multitude de plantes ornementales ou odorantes, des arbres d'avenue ou des plantes d'ombrage, comme le palmier que l'on retrouve dans nos contrées et qui a été étudié et introduit en Europe vers le milieu du XIXe siècle. Il fut d'abord cultivé plusieurs années en serre en Europe, personne ne pensait alors qu'il pût survivre à nos hivers. Les premiers essais à l'extérieur, à Paris et en Angleterre, montrèrent une surprenante résistance au froid. Le jardin botanique de Bordeaux planta ses premiers palmiers en 1857, comme de nombreux autres sites, et l'arbre devint très vite populaire. Les prétextes à planter des palmiers étaient divers. Outre l'aspect curieux et décoratif, ils signifiaient de manière ostentatoire une prise d'intérêt dans les colonies, ou le passage du Cap Horn pour un capitaine au long cours, comme d'usage dans la région nantaise. Mais revenons à nos jardins d'acclimatation. Leur richesse floristique et le raffinement horticole soulignent également l'habileté technique du colonisateur. Si tout jardin évoque la maîtrise humaine de la nature, le jardin d'essai doit plus précisément mettre en scène la capacité de l'occupant à dominer, aménager et faire fructifier la brousse. Ce n'est pas par hasard si la fontaine de la place du gouvernement de Conakry représente une femme européenne entourée de fleurs, suggérant une Afrique fécondée par l'occupant. En 1898, Paul Tessonnier, le premier directeur du jardin d'essai de Camayenne, estime que, jusqu'ici, les indigènes n'ont pour ainsi dire fait aucune culture en vue de l'exportation. Ils se contentent en général de cultiver une étendue de terrain leur permettant de subvenir à leur nourriture. Les observations qui vont être faites dans les jardins d'essai nous apprendront bientôt quelles sont les plantes qui pourront être ajoutées. La rencontre avec l'agriculture africaine est ainsi placée sous le signe d'un manque et de lacunes à combler. Le noir ne sait pas et est inapte à mettre en valeur son propre environnement. Tel est le credo du colonisateur s'offrant généreusement pour dévoiler et exploiter les ressources de l'Afrique. Ainsi, sûr de la supériorité de sa science, Tessonnier se plaint-il de ses ouvriers africains, qui ne sont pas au courant des travaux du culture, pour justifier la lenteur d'un défrichement, alors qu'il a commis l'erreur d'ordonner ce chantier en pleine saison des pluies. Et le gouvernement français, pour ne citer que lui, fait preuve de la même condescendance qu'hier quand il s'agit de parler des populations d'Afrique. Cet été, le ministre de l'Agriculture français Bruno Le Maire se désolait en parlant de la Somalie que si ce pays connaît une famine majeure depuis juillet, c'est qu'il n'a pas su développer son agriculture vivrière. En oubliant de préciser que ce sont les pays coloniaux, la France en tête, qui ont bousillé ces agricultures locales diversifiées et autosuffisantes pour les remplacer par de la monoculture de rente destinée à l'exportation. En plus d'omettre que le pays connaît un conflit armé destructeur depuis des décennies et subit une sécheresse comme il n'en a pas connue depuis 20 ans. Ah, donner des leçons, ça ils savent faire au gouvernement. Mais aider les petits paysans pour soutenir les agricultures vivrières, moins. Les empires coloniaux se sont octroyés le droit de modifier durablement les agricultures locales des pays envahis, considérées comme sauvages ou inabouties, reproduisant le même rapport raciste et dominateur vis-à-vis des humains, des espaces et des espèces indigènes. Ils imposèrent une vision de la nature tropicale comme simple réservoir de ressources encore à l'œuvre aujourd'hui. La géographie mondiale des monocultures d'exportation de café, de thé, de cacao, de caoutchouc, de bananes, etc., qui bouleversera et rendit dépendante des régions entières, est le fruit pourri de cette histoire-là qui se perpétue avec d'autant plus de vigueur aujourd'hui. Pour en savoir plus sur les jardins botaniques, vous pouvez vous référer aux écrits de Christophe Bonneuil, chercheur au CNRS sur l'histoire des sciences, ainsi que l'excellent livre de Franz Broswimmer, Une brève histoire de l'extinction en masse des espèces, aux éditions Agone.